accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
All those souvenirs in my memory got me going down in stride.
Bonjour, c'est l'un des effets du mouvement Black Lives Matter parti des États-Unis. À travers le monde, les statues, les monuments sur des figures majeures du colonialisme et de la traite d'esclaves sont devenus la cible des manifestants contre le racisme et la discrimination. Vandalisés, décapités, voire carrément déboulonnés, ces statues sont devenues l'image visible d'un passé traumatisant. Qu'est-ce que ce mouvement de colère exprime et comment il s'explique ? Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour.
Vous avez posé la question à une photographe congolaise, Pamela Toulizo, qui a suivi de près, en Belgique, le déboulonnage de la statue du roi Léopold II.
Léopold II, le roi des Belges qui a saigné à blanc le Congo à la fin du 19e siècle pour exploiter son ivoire et son caoutchouc. On parle de peut-être 10 millions de victimes exécutées, mutilées. Et il a fallu attendre 7 années pour que la monarchie belge s'excuse pour ses crimes. Des crimes encore trop peu connus, ce que dénonce Pamela Toulizo.
J'aimerais que Léopold II ne soit pas vu comme une personne qui a amené la civilisation, qui a amené le christianisme au Congo, tel que c'est montré en Belgique. J'aimerais que, bien sûr, ces statues soient carrément enlevées. Et j'aimerais aussi que l'éducation coloniale soit carrément dans le manuel scolaire en Belgique. Parce que il faut que la nouvelle génération soit consciente de l'histoire de la Belgique qui influence en quelque sorte les Congos.
C'est donc une histoire de représentation qui se joue, Juliette ?
Oui, depuis des décennies, les Africains doivent affronter quotidiennement une image d'eux particulièrement dévalorisante. C'est là-dessus que travaille Pamela Toulizo, dont on peut voir les photos en ce moment sur le site du prix Carmignac de la photographie. Avec décoloniser la beauté, elle affronte un héritage colonial qui concerne aujourd'hui encore un grand nombre de femmes africaines, le modèle de beauté à la peau claire et aux cheveux lisses.
Dans cette série, j'essaie de montrer le combat qui existe entre la peau et la psychologie de la femme africaine qui, pendant plusieurs années, a essayé de se blanchir la peau en croyant qu'elle était beaucoup plus belle quand elle avait la peau claire.
C'est une nouvelle manière de voir qui est en train d'émerger actuellement, selon l'historien britannique Mark Seely, qui s'intéresse au rapport entre photographie et mutation sociale, identité raciale, droits de l'homme. Il a particulièrement suivi les manifestations qui ont eu lieu dans le monde entier après la mort de l'Américain George Floyd.
Peut-être qu'on est à un tournant en termes de représentation. D'abord, le fait qu'on ait parlé de manifestations plutôt que d'émeutes, et puis à cause du nombre considérable de personnes concernées, de l'impact global de ce mouvement. Je pense qu'il serait très difficile pour les médias, les journaux, de ne pas accepter ce mouvement. Un mouvement de la jeunesse en particulier. C'est une vague d'une telle ampleur, tellement indéniable, que même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas le passer sous silence.
Mark Seely, qui est l'auteur d'un livre « Decolonizing the Camera » qu'on pourrait traduire par « Décoloniser la photographie ».
Merci beaucoup, Juliette Rangeval. Se pose alors la question suivante. Faut-il se débarrasser de ces rappels peu glorieux de notre histoire ou préserver notre patrimoine ? La ville de Berlin en Allemagne a tranché. Depuis 2016, princes prussiens et mémoriaux nazis ont trouvé une place dans la citadelle de Spandau, dans le nord de la capitale. Un musée qui se veut pédagogique et témoin de l'histoire. Visite guidée avec Déborah Berlioz.
Prince en costume d'apparat, buste de militaire, d'artiste ou d'intellectuel, jadis toutes ces statues de marbre jalonnaient l'allée de la Victoire. Située en plein cœur de Berlin, elle avait été conçue par l'empereur Guillaume II pour affirmer la légitimité de son pouvoir. Symbole de la puissance prussienne, elles ont été déboulonnées par les alliés après la Seconde Guerre mondiale. Longtemps mises au rebut, elles sont aujourd'hui exposées dans la citadelle. Mais elles ont perdu de leur superbe. Quelques bras et têtes ont été perdus lors des bombardements. Urte Evert, la directrice du musée, y tient. Ici, aucune statue n'est rénovée. Elle porte toutes les traces de leur histoire.
Je pense que c'est important qu'elle ne soit pas exposée comme les principaux intéressés le souhaitaient. Ils voulaient être sur un piédestal, regarder les gens de haut. Là, les statues ont été enlevées de leur socle. Elles sont à notre hauteur. On peut les toucher. Et cette présentation permet de réfléchir.
Le clou de l'exposition est certainement l'immense tête de Lénine allongée dans la dernière salle. Elle faisait partie d'une statue de 19 mètres de haut sur une place de Berlin-Est. Mise en morceaux par les autorités à la réunification, elle a été enterrée dans une forêt au sud de la ville. Et le musée a bien eu du mal à récupérer cette énorme tête en pierre.
Il y a eu des débats politiques. Est-ce qu'on doit l'exposer? Lénine pourrait être à nouveau vénéré. Et à l'inverse, le fait que la tête soit couchée et qu'elle ait encore les vis dans la tête qui ont servi à la transporter, cela a parfois été interprété comme une affirmation de la victoire de l'Occident par certains habitants de l'ex-Allemagne de l'Est. Cette exposition est donc un espace où l'on peut discuter, débattre en toute sécurité.
L'exposition comporte peu de traces du national-socialisme. Il faut dire que les nazis préféraient se focaliser sur l'architecture. Ils avaient bien érigé quelques mémoriaux et statues, mais souvent en métal. Beaucoup ont été fondus pendant la guerre pour en faire des munitions. On peut toutefois voir une imposante stèle qui commémorait l'arrivée au pouvoir d'Hitler.
Quand l'armée rouge a encerclé Berlin en 1945, les habitants du quartier où se trouvait ce mémorial se sont dit que cela risquait de provoquer les soldats soviétiques et ils ont enlevé les symboles nazis. La stèle était toutefois tellement grosse qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser autrement qu'en l'enterrant.
Au final, ce monument est l'un des rares dans l'exposition à avoir été retiré un peu sauvagement par des citoyens. Si les Berlinois ont détruit le mur à coups de marteau, ils ne se sont pas attaqués aux autres symboles communistes. En général, ce sont les autorités qui ont décidé de déboulonner les statues. Il reste toutefois des figures contestées dans l'espace public, comme le très militaire Bismarck ou encore Martin Luther. Le père du protestantisme allemand est en effet souvent critiqué pour ses paroles envers les juifs. Toutefois, pour la directrice de ce musée des statues, rien ne justifiera jamais leur destruction. On peut les mettre dans un musée, ajouter une plaque ou créer un contre-monument à côté. L'important est de ne pas nier l'histoire, mais d'en débattre.
En 1991, un immense vent de changement soufflait à Budapest. Adieu boulevard Lénine et avenue de l'Armée rouge, la capitale hongroise débaptisait ses rues à tour de bras. Idem avec les statues, souvent retirées après des débats animés. Au même moment, un entrepreneur a l'idée de rassembler toutes ces figures du communisme dans un parc. Aujourd'hui, les Hongrois s'y rendent volontiers pour revoir les statues de leur jeunesse. Mais les débats n'ont pas disparu pour autant, car sous l'impulsion du premier ministre nationaliste, Viktor Orban, de nouveaux monuments controversés sont érigés dans la capitale. Le reportage de Florence Labruyère.
10h du matin, après des semaines de fermeture pour cause d'épidémie, le Memento Park rouvre ses portes. Entouré de murs de briques rouges, ce musée en plein air, situé dans la banlieue de Budapest, abrite les statues qui ornaient Budapest pendant le communisme. Lorsque la Hongrie est devenue une démocratie, ses œuvres n'ont pas été détruites, elles ont été rassemblées dans ce parc. À l'entrée, une immense statue de Lénine, haute de 9 mètres, attend le retour des visiteurs. Il y a aussi un curieux monument que décrit Dora Skouklik, l'une des guides du musée.
Là, on voit une paire de bottes en bronze posées sur un grand piédestal. Ça évoque la statue de Staline qui se trouvait auparavant sur la place des Héros. C'était une sculpture immense de 13 mètres de haut. Elle a été détruite pendant la révolution de 1956. Pendant des heures, la foule en colère a saccagé cette statue qui symbolisait l'oppression du régime. Ils n'ont laissé que les bottes, mais celles-ci ont finalement été détruites, probablement par un tank soviétique.
Les bottes de Staline sont donc une réplique, mais les autres monuments du parc sont tous des originaux. Certains sont adorés des Hongrois, comme cette statue géante qui rend hommage à la République des Soviets. Dora Skouklik.
Celle-ci représente un ouvrier soviétique en train de courir. Il brandit un tissu qui est en fait un drapeau. Quand les Hongrois arrivent ici, la première chose qu'ils demandent, c'est « Où est l'employé du vestiaire ?» C'est le surnom que les gens ont donné à ce personnage, car il a l'air de courir après un spectateur qui a oublié son écharpe au vestiaire.
Catch the customer who just forgot it.
Direction Place de la Liberté, au centre de Budapest. Sous un soleil torride, des enfants jouent autour d'une fontaine, indifférents aux monuments massifs qui trônent sur la place. Une demi-douzaine de colonnes forment un cercle. Au-dessus, un aigle menaçant, symbole du régime nazi, s'apprête à fondre sur l'archange Gabriel, symbole de la Hongrie. Sur une plaque, on peut lire « Monument commémoratif de l'occupation allemande, en mémoire des victimes hongroises ». Face à cette œuvre très kitsch, Laszlo Szabó, un habitant du quartier, reste dubitatif.
C'est pas mon goût. Vraiment, je ne trouve pas ça beau. Et puis, ce monument suggère que tous les Hongrois ont été des victimes du régime allemand nazi et que la Hongrie n'a pas collaboré avec le Troisième Reich. Or, c'est faux. Le gouvernement hongrois de l'époque a collaboré avec les Allemands. Il a participé à la destruction de nombreux juifs de Hongrie.
En 1944, les gendarmes hongrois ont déporté en quelques semaines plus de 400 000 juifs hongrois à Auschwitz. Sans l'efficacité et le zèle de Budapest, nous n'aurions jamais pu déporter autant de juifs, relate dans ses mémoires l'ambassadeur de Hitler en Hongrie. Or, le monument érigé par le gouvernement Orban suggère que les nazis allemands sont les seuls responsables. À quelques mètres du monument officiel, un contre-monument a vu le jour. Des objets ont été installés sur le trottoir par des centaines de Budapestois, explique cet habitant.
Le monument officiel a mis beaucoup de gens en colère. Alors pour protester, certains ont apporté des photos de membres de leur famille qui ont été déportés, des extraits de journaux de l'époque. D'autres ont apporté des petits cailloux avec lesquels les Juifs rendent hommage à leurs morts. Et il y a aussi des vieilles valises qui évoquent le départ des Juifs vers les camps d'extermination.
Cette installation sauvage, les protestataires l'ont appelée le mémorial vivant. Des conférences sont régulièrement organisées sur ce site. On y parle de l'Holocauste, mais aussi d'autres événements de l'histoire. András Rényi est historien d'art. Il est l'un des fondateurs du mémorial vivant.
Depuis 6 ans que nous occupons ce lieu, pas un seul membre du gouvernement ni du parti au pouvoir n'a été vu ici. Ils n'ont même pas osé inaugurer leur propre monument. Ils évitent ce lieu. Et ça, c'est notre victoire. On a gagné cette bataille. Car le pouvoir n'utilise pas ce monument. En temps normal, il y a beaucoup de touristes ici, mais ils sont beaucoup plus intéressés par le mémorial vivant que par le monument officiel.
Depuis que des statues sont déboulonnées dans le monde entier, certains Budapestois s'interrogent. Faut-il s'attaquer au monument mensonger du gouvernement Orban ? András Rényi.
Beaucoup disent qu'il faut démolir le monument officiel. Ils voient ce qui se passe actuellement dans le monde et ça les influence. Moi, je pense au contraire qu'on ne doit pas y toucher, car si on le détruit, ça va galvaniser les partisans du pouvoir et ce monument deviendra le symbole d'une nouvelle perte. Moi, je pense qu'il faut essayer de diminuer l'importance des symboles.
Si les Hongrois regardent les statues de l'époque communiste d'un œil apaisé, les débats sur les monuments mis en place par la droite nationaliste ne sont pas près de s'éteindre.
Et le Royaume-Uni n'a pas fait exception. Une statue de marchand d'esclaves jetée à l'eau à Bristol, des manifestations à Oxford devant l'effigie du colonisateur en Afrique du Sud, Cecil Rhodes. Suite à cette vague de colère, début juin, le Premier ministre Boris Johnson a voulu se montrer à l'écoute et a annoncé la création d'une commission sur les disparités ethniques. Mais la mission de cette commission, elle, n'a pas été définie, Marie Billon.
Boris Johnson a annoncé la création de cette commission à la mi-juin au milieu d'un article de sa plume où il défend Winston Churchill. La statue de l'ex-premier ministre venait en effet d'être vandalisée. Mais cette annonce, au milieu d'un énième article sur son héros personnel et dans un journal dont aucun article n'est accessible gratuitement sur le net, a déplu à certains. Pour David Lamy, député en charge des questions de justice dans le gouvernement fantôme de l'opposition travailliste, c'est la preuve que Boris Johnson ne prend pas la question du racisme au sérieux. Il parlait ici sur la BBC.
S'il est sérieux, pourquoi ne donne-t-il pas plus de détails sur la composition, les attributions, le cahier des charges, le calendrier de cette commission ? Parce qu'il a écrit cette idée sur le dos d'un paquet de cigarettes pour calmer les manifestations de Black Lives Matter. Faites plutôt quelque chose de concret, bougez les choses, légiférez. C'est vous qui êtes au gouvernement, faites quelque chose.
Le député rappelle qu'il y a eu déjà plusieurs plusieurs commissions chargées de se pencher sur le racisme et les discriminations au Royaume-Uni, dont une dont il était en charge. Toutes ont rendu leurs recommandations, aucune n'a été concrétisée, notamment les recommandations de David Lammy sur les discriminations dans le milieu judiciaire. Mais Boris Johnson a aussi estimé que les Britanniques ne se concentraient pas assez sur les progrès obtenus. De plus en plus de jeunes issus des minorités ethniques qui vont dans les meilleures universités, par exemple, dit-il. C'est le genre de discours que tient aussi celle qui est en charge de mettre en place cette commission, Munira Murza, proche conseillère de Boris Johnson, qui l'a suivie de la mairie de Londres à Downing Street. Elle a plusieurs fois émis de forts doutes sur l'existence d'un racisme endémique au Royaume-Uni. Résultat, selon certains, même au sein du Parti conservateur, cette commission risque fort de délivrer la conclusion que le gouvernement attend, qu'il n'y a pas de racisme institutionnel ou systémique dans le pays. La composition et le mandat de cette commission sont attendus pendant l'été, mais un porte-parole de Downing Street a déjà dit qu'elle étudierait toutes les inégalités, jusqu'aux difficultés que les jeunes garçons blancs issus de la classe ouvrière rencontrent à l'école, par exemple.
Aux Pays-Bas, le mouvement Black Lives Matter a relancé le débat sur les discriminations, mais aussi sur une vieille imagerie coloniale toujours présente au quotidien. Dans ce pays qui, pendant 3 siècles, a été une importante puissance coloniale, administrant l'Indonésie, le Suriname et les Antilles néerlandaises. Parmi ces symboles, le personnage de Zwarte Piet, un serviteur noir qui, chaque fin d'année, vient distribuer des cadeaux aux enfants aux côtés de Saint-Nicolas. À La Haye, les explications d'Antoine Moto.
Door de protesten tegen racisme gaat het ook weer over Zwarte Piet.
Maquillage noir, perruque afro, grosses lèvres rouges, cela fait des années que le personnage de Zwarte Piet fait polémique. Face aux accusations de racisme, plusieurs villes du pays ont déjà modifié l'apparence du personnage lors des défilés de la Saint-Nicolas, remplaçant le blackface par un maquillage qui imite plutôt les traces de suie. Jusque-là, face à une partie de la population très attachée à cette tradition, face aussi aux partis nationalistes et d'extrême droite qui ont fait de ce Zwarte Piet le symbole des valeurs néerlandaises à défendre, le Premier ministre de droite libérale Mark Rutte refusait de prendre position. Mais avec l'arrivée du mouvement Black Lives Matter et des manifestations dans plusieurs villes du pays, le 5 juin dernier, le Premier ministre change de discours.
À partir du moment où je croise des personnes à la couleur de peau plus foncée, qui me disent clairement qu'elles se sentent très discriminées, car Zwarte Piet est noir, je me suis dit, c'est la dernière chose que l'on souhaite d'une fête comme la Saint-Nicolas. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que des personnes ont l'impression de ne pas compter à part entière dans la société. Aux Pays-Bas aussi. Ici aussi, il y a du racisme, de la discrimination. Ce n'est pas qu'un phénomène américain.
La semaine dernière, pour calmer davantage les manifestants qui continuent de réclamer la fin d'un racisme qui ne dit pas son nom, le Premier ministre a décidé d'inviter dans sa résidence officielle plusieurs représentants d'organisations anti-racisme, parmi eux Gideon Heverduim, activiste de l'association anti-profilage ethnique Control Alt Delete. Pour lui, il faut faire plus que s'attaquer au symbole.
Nous en avons marre du racisme institutionnel. Nous en avons assez de cette position socio-économique de second rang. L'administration fiscale se rend coupable de profilage ethnique, et la police aussi. Le racisme, ça ne fait pas seulement mal, c'est fatigant. Et pour nous, ça suffit.
Selon cet activiste, ceux qu'il appelle les Afro-Néerlandais sont des citoyens de second rang, lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir un emploi. Mais la discrimination à l'encontre des personnes noires dans le pays serait également encouragée par une vieille imagerie héritée de l'empire colonial néerlandais. C'est le cas de Zwarte Piet, mais aussi d'autres symboles comme le carrosse royal, actuellement en cours de restauration et qui en temps normal est utilisé par le roi Willem Alexander chaque 15 septembre. Les motifs qui y figurent sont aujourd'hui très décriés, car Van Fata Black est historien à l'université de Leiden.
Sur ce carrosse, on voit des gens qui ressemblent à des esclaves apporter des biens à la reine Wilhelmina. Il lui a été offert en 1898, soit 25 ans après l'abolition de l'esclavage, mais à un moment où l'empire néerlandais était encore une source de fierté. L'iconographie qu'on y observe est clairement celle du suprémacisme blanc.
Pour de nombreux militants anti-racisme, ce symbole doit disparaître avant de s'attaquer à tous les autres domaines où il y a discrimination. Exemple avec l'administration fiscale qui contrôle plus aisément les citoyens néerlandais d'origine étrangère, tout comme la police.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Juliette Rangeval. Pour nous écouter à toute heure et quand vous voulez, rendez-vous sur notre podcast Accent d'Europe. À bientôt.